Un jour, une histoire, c'est avec vous, Philippe Legrand de Paris Match. Vous recevez, comme chaque samedi, une personnalité qui se souvient avec nous sur Europe 1. On vous écoute, bonsoir Philippe.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Bonsoir Philippe Labro.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. On va prendre la direction des États-Unis. Vous avez choisi de revenir sur une date forte, une date qui compte aussi dans votre histoire et dans l'histoire du monde. Le 22 novembre 1963, direction Dallas, l'assassinat de Kennedy sur Dealey Plaza. Vous n'étiez pas loin, vous étiez sur le continent américain.
J'étais sur le campus de Yale, j'ai appris sa mort, un garçon est venu en hurlant, on a tiré sur le président. J'ai pris une voiture, j'ai pris un avion, arrêtons les détails, j'arrive à Dallas le lendemain matin, samedi, et j'ai passé 48 heures de folie.
De folie. Alors, il faut revenir sur, justement, ce qui s'est passé le 22 novembre 1963. La limousine présidentielle est décapotée. Le président l'avait souhaité parce qu'il faisait beau ce 22 novembre 1963.
Mais oui, c'est ça les circonstances de l'histoire. S'il avait plu, Kennedy n'aurait pas été assassiné. Cela dit, moi, ma théorie, c'est que de toute façon, un jour ou l'autre, on l'aurait flingué. Parce qu'il était vraiment sur la liste. Mais oui, il fait beau, donc il dit on décapote, le service secret ne dit rien. D'ailleurs, le service secret à l'époque était complètement aux ordres de Kennedy. Depuis cet assassinat, c'est le service secret qui impose à n'importe quel président américain toute activité, toute présence ou toute absence, bref. Donc voilà, la limousine est là, il y a Jackie qui est à l'intérieur, il y a Connelly, le gouverneur du Texas, sa femme, et ils traversent la ville avec des applaudissements très 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 nombreux. Les gens sont très surpris de voir à quel point le Texas et Dallas, qui étaient censés être hostiles à Kennedy, le reçoivent bien. Et puis les coups de feu démarrent depuis le haut du Texas School Book Depository Building. Et voilà, et la tragédie est là. Le crâne qui explose, Jackie qui rampe sur le capot arrière de voiture, on ne saura jamais si c'est pour récupérer les éléments du cerveau de son mari ou si c'est par panique pour partir, on ne sait pas. Toujours est-il qu'un membre du service secret monte sur le capot, tout ça part à fond la caisse vers l'hôpital Parkland, où très rapidement, malheureusement, on annonce qu'il est mort.
Et vous en serez pas de cet événement-là, exactement le 22 novembre, mais quelques heures après, vous serez le témoin de cette panique, de cette angoisse et d'une enquête qui démarre.
Oui, la panique, l'angoisse, surtout, pour parler vulgairement, le bordel. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un commissariat de police d'une petite ville à l'époque, pas très grande encore, et un petit commissariat de police avec des policiers qui connaissaient par cœur tout le monde, et en particulier les tenanciers de boîte de nuit, dont l'un d'entre eux s'appelait Jack Ruby. Et c'est envahi par les journalistes, par la presse, la télé qui fait la loi.
Vous êtes le seul Français ?
Non, il y a un autre Français qui malheureusement disparaît aujourd'hui, qui est un grand correspondant de l'AFP, qui s'appelait François Peloux, et qui est arrivé, lui, parce qu'il l'accompagnait, il était basé à Washington pour l'AFP, et donc il avait accompagné le président pendant tout le voyage. Mais nous étions les deux seuls Français, moi j'étais le seul représentant de la presse écrite, à part évidemment Peloux, pour l'AFP. Et donc par conséquent...
François, à l'époque ?
Pour France Soir, bien sûr, dont j'étais un des grands porteurs, entre guillemets, qui vendait 1 million et quelques de plus d'exemplaires par jour. Et cette histoire a été non seulement un tournant énorme dans la vie des États-Unis, mais pour moi un tournant professionnel, parce que je me suis retrouvé à la une de France Soir pendant 8 jours, en racontant, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai raconté, j'ai écouté. En racontant quoi ? En racontant la confusion à l'intérieur de ce couloir, en voyant Harvey Oswald débarquer du troisième étage.
Oui, parce qu'il est arrêté, Oswald est arrêté.
Oswald a été tout de suite arrêté, Lee Harvey Oswald, très rapidement, et tout de suite incriminé, l'assassin présumé, hein, le terme présumé est très important, mais là encore, je me suis souvent battu avec mes confrères, qui croient tous, comme beaucoup de gens, à un complot très organisé, et moi je pense d'une certaine manière qu'il est seul. Mais ça fait l'objet d'un livre entier que j'ai écrit là-dessus, qui s'appelle « On va tirer sur le président ». La question n'est pas là. La question, c'est l'impression que moi, à 24 ans, je suis là, c'est mon grand moment journalistique, je sais que je suis dans l'histoire, avec un H majuscule, face à ce garçon qui a mon âge. Et qu'est-ce que son visage retraduit ? Qu'est-ce qu'il m'envoie ? Il m'envoie une grimace ironique de l'homme qui dit « Je sais, je suis au centre de l'événement le plus important du demi-siècle, et je sais, et je ne vous dirai rien ».
Et là, vous assistez, parmi cette foule de journalistes dans ce commissariat, vous assistez à un autre assassinat.
Alors, là aussi...
Parce que Jack Ruby débarque,
Jack Ruby,
Philippe Labro.
Je rencontre la veille Jack Ruby, il a son chapeau de voyou, de mafieux. Qu'est-ce qu'il fait là ? il ne ressemble absolument pas à un journaliste. Ben, il est copain avec tous les flics, il est au courant de tout d'ailleurs, il se balade. Il me dit, vous êtes français? Je dis, oui, très bien, en anglais tout ça. Ah, la folie bergère.
Et lui avait un club?
Il me donne une carte de son club, qui est fermée bien sûr, signe de deuil. C'est un club, c'est une boîte de nuit où il recevait les flics, bien sûr, il les abreuvait gratuitement. Et donc j'ai trouvé ça très étrange, ce type qui était là comme ça, qui se baladait, tué à toi avec tous les flics, et le lendemain il a tué Oswald dans le sous-sol du garage. Là encore, les circonstances, si on les regarde très très près, démontrent qu'à une minute près, il pouvait ne pas être là. Il avait un mandat à récupérer, un bureau de poste juste à côté. Oswald, de son côté, avait fait retarder la sortie de l'hôpital parce qu'il voulait un chandail noir, on ne sait pas pourquoi le chandail noir. Donc tout ça a fait que si vous accumulez la myriade de petits détails, de circonstances, vous vous dites que vous avez affaire au fait divers le plus énorme de l'histoire, enfin un des plus énormes de l'histoire, avec toutes sortes d'énigmes sans réponse.
Philippe Labrouille, un mot qui est important dans votre vocabulaire, c'est rivière.
Comment le savez-vous? Il y a des mots que j'aime, parce qu'ils sonnent bien. Il y a lumière, il y a rivière, il y a aventure. C'est les trois mots clés de ma vie. Et la rivière, c'est beau d'abord, hein, ça coule, c'est la vie, hein, c'est la joie, c'est l'éphémère, c'est ce qu'on ne peut pas saisir. C'est aussi, d'une certaine manière, le chemin que j'ai parcouru. J'ai nagé dans une très bonne rivière et ça va faire partie du titre.
Merci de nous avoir emmené aussi, Philippe Labrouille, ce samedi soir sur Europe 1, dans cette rivière de souvenirs, jusqu'à Dallas, ce 22 novembre 1963. À bientôt.
À bientôt.